Nous devons juger comme nous aimerions être jugés.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Et ça s'appelle un vœu pieux. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, c'est l'heure de votre énervé de la soirée. Double soirée qui commence, vous le savez, dès 18h en podcast, avant le passage antenne de 22h à minuit. Un nouveau rendez-vous en deux parties, l'actualité et la musique live, et en deuxième heure, les archives extraordinaires de France Inter. Ce soir, l'actu, c'est la magistrature. Hier sortait en salle un documentaire exceptionnel dans lequel, pour la première fois, plus d'une vingtaine de magistrats racontent la justice de l'intérieur. Un document passionnant car la machine juridique fait peur, reste mystérieuse, infernale, impitoyable, une machine à broyer, disent certains et certaines. Qu'est-ce que rendre justice? Qui se cache sous la robe des magistrats? Et où en est le système judiciaire français? Alors qu'un Français sur deux semble craindre pour l'indépendance de la justice qui est rendue avec de moins en moins de moyens, ce soir, dans le nouveau rendez-vous, on se pose la question, magistrats, mais qui sont-ils pour nous juger?
Benoît Lagane.
Oui, et pour en parler, on accueille Robert Salis, réalisateur de ce film documentaire « Rendre la justice ». À ses côtés, Fabienne Sirdé-Garnier, présidente de chambre correctionnelle au TGI de Paris, que l'on voit dans le film et que l'on entend. Également Youssef Badre, magistrat de l'École nationale de la magistrature, où il est coordonnateur de formation. J'avais du mal avec le mot coordonnateur, j'ai toujours du mal avec ce terme-là.
C'est échappe, la coordination.
Voilà. Et ancien porte-parole aussi de la garde des Sceaux. Et nous avons également convié notre maître à tous ici à France Inter, chef du service enquête justice à France Inter, donc Jean-Philippe Deniaux.
Bonsoir.
Sur le plan musical, Marion Guilbeault, pour finir, moi aussi, la coordination n'est pas mon fort, c'est ça. Marion Guilbeault, allez, pour finir cette semaine.
Il y a toutes sortes de bonnes raisons pour faire de la musique, mais la meilleure, enfin une des meilleures, et en tout cas c'est la leur, c'est pour soigner ses chagrins d'amour. Ils s'appellent Film Noir et ils sont en live à la fin de l'émission.
Et puis, autre temps, autre parole, ce sera le NRV La Suite, France Inter, plus de la série 13 novembre, l'enquête de Sarah Guibaudot. Ce soir, dernier épisode avec le témoignage d'un proche de deux djihadistes impliqués dans la filière dite des buts de Chaumont. Allez, le NRV, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Donc, hier, c'était la sortie en salle de Rendre la justice, votre dernier documentaire, Robert Salis. Vous filmez une vingtaine de magistrats qui décrivent leur métier et c'est la première fois qu'un tel travail est réalisé. Bande-annonce.
Juger, c'est savoir écouter, essayer de comprendre et vouloir décider.
Bien sûr que ça fait peur, la justice, et je comprends que ça fasse peur. On est terrorisé quand on vient devant la justice, à tout le moins très impressionné.
Il ne faut jamais oublier pour un magistrat que le justiciable, lorsqu'il vient devant lui, c'est l'affaire de sa vie.
Le cauchemar d'un juge, c'est de commettre une injustice.
S'il suffit d'accuser, où seront les innocents?
Nous sommes tous des citoyens, et à ce titre, nous sommes tous des justiciables potentiels.
Nous devons juger comme nous aimerions être jugés.
La justice peut être une machine à broyer, on nous le reproche souvent. Notre travail, c'est d'essayer de l'éviter, mais je ne vous garantis pas que je n'ai pas broyé quelqu'un. Je vis avec ça tous les jours.
La vraie manifestation de la force, c'est la douceur.
Fabienne Sirdé-Garnier, vous êtes formidable dans ce film. Véritablement, vous crevez l'écran et vos paroles portent chaque fois. C'est vous qu'on entend déclarer que la machine juridique pouvait être une véritable machine à broyer. Est-ce que c'est un sentiment partagé par d'autres de vos collègues?
J'allais dire presque sous la forme d'une boutade, que je l'espère. Je ne voudrais pas laisser penser que nous broyons régulièrement, quotidiennement, et que l'inverse serait l'exceptionnel. Mais c'est en tout cas une crainte que l'on doit avoir en permanence en soi et essayer justement de ne pas arriver à ce résultat.
Robert Salis, l'élément déclencheur de ce film, c'est votre rencontre avec le magistrat Jean-Christophe Hulin. Que fallait-il dire, que fallait-il raconter pour en faire un film?
Je suis parti du postulat, comme c'est dit à plusieurs reprises dans le film, que nous sommes tous des justiciables potentiels, donc on risque à son corps défendant ou volontairement à avoir affaire à la justice, et on connaît très mal ceux qui nous jugent. Donc ça m'intéressait de montrer qui sont vraiment les magistrats. J'en ai parlé à un magistrat qui est Jean-Christophe Hulin, qui est lui-même président de cour d'assises, et à partir de là, il m'a dit c'est vrai qu'il n'y a jamais eu vraiment de documentaire sur notre travail, comme nous l'exerçons, ce que nous faisons au quotidien.
Pour quelle raison d'ailleurs ce travail n'a jamais été fait auparavant?
parce que je pense que d'autres aussi avaient la même inquiétude que moi de ne pas trouver des magistrats qui avaient envie de parler sincèrement sans langue de bois. Et d'ailleurs, je lui ai dit, ça m'étonnerait qu'on en trouve, parce que les magistrats que j'avais rencontrés avant, ils étaient tous assez obtus, autoritaires, péremptoires, secrets. Et donc, j'étais agréablement surpris que ce soit de jeunes magistrats, ou à l'école de la magistrature, ils font un travail formidable, ou des magistrats aguerris, comme ceux que nous avons ici.
Ici, sur le plateau,
ouais. Qui est autant une honnêteté de parler sans phare et sans langue de bois, surtout.
Jean-Philippe Dognaud, c'est vrai qu'on a du mal à faire parler les personnes, les magistrats.
Ah, mais oui, ils sont biberonnés depuis la plus tendre enfance, c'est-à-dire depuis l'école nationale de magistrature, ils sont biberonnés au secret, j'allais dire, absolu. Alors, évidemment, la procédure doit être relativement secrète ou totalement secrète dans certains cas, mais le magistrat, par définition, ne dit rien de ce qu'il fait, ne révèle jamais rien de ce qu'il fait, et finalement parvenir à faire parler des magistrats sur ce qu'ils sont, parce que c'est ça qui est le cœur du film le plus intéressant, je trouve, dans votre film, Robert Salis, c'est qu'on est à l'intérieur de la tête d'un magistrat, et on se pose avec lui les questions, et enfin on voit un magistrat se poser les questions, parfois douter, on l'a entendu, mais parfois aussi aller au fond des choses et s'interroger sur le sens de son métier.
Par exemple, vous avez une séquence précise quand vous dites cela ?
Oui, j'ai une phrase qui est très belle. C'est le problème de la justice, c'est que c'est à la fois une institution et une valeur. Et c'est vrai. On recherche dans l'institution la valeur. Et la valeur justice ne se trouve pas forcément dans chaque décision. Parfois, la décision peut paraître un peu injuste, mais c'est la justice qui la rend.
Youssef Badr, pour quelle raison vous avez accepté de témoigner dans ce film documentaire?
Alors en fait, c'est Jean-Christophe Hulin qui m'a contacté la première fois. Je me suis dit spontanément, après avoir lu son mail, je me suis dit que la majorité des gens qui parlaient de l'institution judiciaire étaient des gens qui n'exerçaient pas en fait le métier de magistrat. Et souvent, c'était des gens qui, quand ils en parlaient, c'est souvent pour avoir soit dire des choses fausses, soit dire des choses qui étaient totalement à côté de la plaque. Et je me suis dit, finalement, s'il y a déjà des collègues qui ont déjà accepté de parler, des collègues beaucoup plus aguerris que moi, qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, si eux ont accepté, pourquoi est-ce que moi je ferais pas état de ce qu'est mon état d'esprit et de la manière dont je conçois l'institution judiciaire et mon métier de magistrat, en l'occurrence de parquetier, puisque j'ai exercé 8 ans au parquet. Et surtout, je me suis dit que c'était peut-être le moment aussi de faire état de comment est-ce qu'on est arrivé dans la magistrature. Moi, j'y suis arrivé, hasard, c'est que j'y suis arrivé en 2008, juste après l'affaire Doutreau. Donc j'ai encore en mémoire aujourd'hui, mais je pense jusqu'à la fin de ma carrière, les mots de mon directeur de l'École nationale de la magistrature. Il nous avait dit à l'époque que même si on était considérés comme étant les meilleurs parmi les étudiants en droit, on ne nous pardonnera rien. Parce qu'on oublie, enfin, on a tendance à oublier, mais ça a été un vrai séisme. Il y a eu une réforme de l'école, ça a totalement bousculé. Ça a d'ailleurs eu même un impact sur les condamnations pour viol qui ont suivi les années suivantes. Et je me suis dit, en fait, je pense que c'est le bon moment pour parler de ce qu'on ressent et de comment on conçoit notre métier.
Et vous, Fabienne Serdet-Garnier ?
Alors, je ne sais plus comment je suis arrivée dans cette histoire, mais je n'ai aucun regret. En tout cas, une chose est certaine, c'est que je prêche pour que ce métier soit mieux connu, pour que la justice soit mieux connue. Je suis, par exemple, peut-être un peu isolée, dans le sens que j'ai toujours soutenu, même si je sais qu'en termes de moyens, c'est compliqué, une participation la plus importante possible des citoyens à l'œuvre de justice, que ce soit dans les cours d'assises ou même dans les tribunaux correctionnels. Et donc, c'était vraiment l'idée de faire savoir que derrière le magistrat, les magistrats sur lesquels circulent plein d'idées reçues, peut-être de notre fait aussi, peut-être par ce réflexe du secret, en tout cas sur les affaires, eh bien, je voulais essayer de briser un peu l'armure et de faire savoir qui nous étions et ce que nous avions à la fois dans la tête et dans le cœur.
Alors, il y a un sondage de l'IFOP pour l'Express, publié fin octobre, qui indique que 53% des Français auraient encore confiance en la justice, c'est une bonne nouvelle, et 62% considèrent que la justice fonctionne mal. À tort ou à raison, comment on explique un tel sondage ?
Silence. Ça y est, ça recommence.
Le regard extérieur du journaliste, effectivement, comprend absolument cette impression que l'on a. Alors déjà, il y a le miroir déformant de la presse, parce que c'est vrai qu'on va tout de suite mettre le doigt sur ce qu'on appelle...
Sur les dysfonctionnements.
Voilà, et ce qu'on appelle un peu rapidement parfois une erreur judiciaire. Bon, mais en tout cas, on met le doigt sur le dysfonctionnement. Mais globalement, c'est une machine qui fonctionne bien, mais qui, comme toutes les machines qui fonctionnent bien en 2019, souffre d'un manque de moyens et d'un manque de personnel. C'est criant. Les magistrats, peut-être n'osent-ils pas le dire, mais les magistrats dans leur juridiction, où qu'ils soient, que ce soit dans les grosses juridictions parisiennes ou en province, dans les plus petites juridictions, les magistrats sont en situation de presque de burn-out parfois, mais en tout cas de travail démesuré. Ils n'arrivent plus à suivre le mouvement.
Fabienne Serre-Desgarnier.
Alors je dirais que si, on ose le dire, hein. Et pas seulement moi, mais un certain nombre de collègues. Alors, sur le manque de moyens, c'est une question délicate. Il faut distinguer selon les situations. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Mais sur le sentiment, parfois, de vider le tonneau des Danaïdes et de n'avoir pas les ressources derrière, que ce soit les ressources personnelles ou les ressources en matériel, en logistique, etc., on travaille encore de manière tellement artisanale. La justice du 21e siècle, dont on qui a donné son nom à toute une série de lois, de projets, etc. et tout. Pour ce qui me concerne, je trouve qu'on n'y est pas, et c'est ça surtout dont on souffre.
Youssef Badr.
Alors moi, paradoxalement, je souscris à ce que dit ma collègue sur le manque de moyens, et c'est pour ça que dès qu'on a un peu plus de moyens, il faut le prendre, il faut s'en féliciter, parce que de toute façon, on part de tellement loin que la situation ne peut que s'améliorer. Mais moi, paradoxalement, je pense que l'institution judiciaire, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui n'ont jamais eu affaire à la justice, mais qui la craignent de par ce qu'ils peuvent en voir ou ce qu'ils peuvent en lire à l'extérieur. Mmh. Tout le monde connaît quelqu'un qui a divorcé, quelqu'un qui s'est plaint des délais de la justice, un sujet ou un article sur l'institution judiciaire, parce qu'on en parle souvent malheureusement quand elle dysfonctionne peu, quand elle fonctionne normalement, ce qui est quand même l'activité quotidienne. Et ensuite, la deuxième catégorie, c'est ceux qui ont eu affaire à la justice. Sauf que l'institution judiciaire, vous avez... Au mieux, elle fait un mécontent insatisfait. Mais dans le pire des cas, vous pouvez avoir deux insatisfaits. Deux personnes qui n'ont pas été satisfaites. Donc, je sais pas si finalement, c'est presque une question philosophique, est-ce que c'est pas le rôle de la justice que finalement, de ne pas satisfaire quelque part les gens? Parce que soit vous avez été débouté, soit vous avez été condamné, ou soit peut-être, moi j'ai le souvenir d'après certaines audiences correctionnelles où certains avocats me disaient, mon client a le sentiment de ne pas avoir été entendu. Alors on va rebasculer effectivement sur la question des moyens. Est-ce qu'on juge de la même manière à 13h30 et à 22h?
Est-ce qu'on juge de la même manière à Paris et en province, selon les régions?
La réponse,
et là, la réponse est non.
La réponse est non, très clairement.
C'est ça qui est effrayant, en fait, clairement. De penser que la justice n'est pas rendue de la même façon dans certaines entre les régions.
Comme je l'ai déjà dit, hein, ça n'est pas d'abord une science exacte. Si le droit était une science exacte, ça perdrait beaucoup de charme, je dirais. Mais il y a une part, alors je ne dirais pas d'arbitraire, mais d'aléa, qui tient compte de toute une série de facteurs tellement complexes que, évidemment, on ne peut pas, en fonction de la personne que vous avez en face de vous, de la situation géographique, territoriale, sociale, de votre propre histoire aussi, de votre propre expérience, ce serait hypocrite de dire qu'on s'en débarrasse complètement quand on juge ou quand on requiert. Donc tout ça fait que non, on ne peut pas garantir à quelqu'un qu'il sera jugé de la même manière à Lyon ou à Marseille ou à Évreux, que sais-je encore.
Mais Jean-Philippe Denieux, vous faites ce constat-là en fonction des régions en tant que journaliste justement.
Mais c'est pas seulement un problème de région, non. On juge pas de la même façon au deuxième et au quatrième étage du tribunal de Paris. Au deuxième étage, en ce moment, il y a le procès du médiateur, 7 mois d'audience, c'est un dossier hyper important, hyper fouillé. Au quatrième, il y a les comparutions immédiates, 10 minutes par dossier. Voilà.
Voilà, je pense à une affaire quand j'étais à la 17e chambre où on passe presque 10 heures d'affilée pour savoir si tel ou tel mot est injurieux, pour savoir si tel ou tel propos est, je mets des guillemets, surtout en ce moment, islamophobe ou pas, et alors que le samedi, je vais pouvoir être de permanence en comparution immédiate et j'abattrai 15 ou 20 affaires exactement dans le même délai.
Robert Salis, qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans les interviews que vous avez menées justement auprès de ces magistrats?
Ce qui m'a surpris, c'est leur profonde humanité, et donc...
Parce que vous pensez que c'était des monstres?
Non, mais...
Partiez avec une mauvaise expérience.
Non, mais la difficulté, c'est que, comme dans toutes les professions, c'est pas propre à la magistrature, donc vous avez toujours des personnes qui sont plus paresseuses que d'autres, incompétentes ou médiocres, et donc il fallait faire la part des choses. J'ai dit d'ailleurs à Jean-Christophe Hulin, quand on a fait, si j'ose dire, un petit casting de magistrats, je lui ai dit, j'aimerais bien montrer, comme j'en avais vu, des magistrats revêches, autoritaires, paresseux, incompétents, médiocres. Il y en a, il faut pas se cacher, mais il y en a pas beaucoup.
Non.
Parce que de plus en plus, moi j'étais très surpris à l'ENM, que les jeunes que les jeunes auditeurs et auditrices de justice, ils sont vraiment investis par le fait que c'est une mission que de juger les gens. Et ce dont je me suis aperçu, que c'est des hommes et des femmes qui travaillent le droit, mais en fait, c'est des hommes et des femmes de devoir, et on oublie très souvent ça, le droit et le devoir. Et c'est avant tout, ils ont un devoir envers les citoyens, et ils doivent travailler et décider au nom de ce devoir. Il y en a pas mal qui l'oublient, mais de moins en moins, je trouve, et de toute façon, quelqu'un de pas intelligent, c'est pas trop intéressant à le montrer, autant montrer des personnes
brillantes. Pas mal, quelqu'un de pas intelligent, quelquefois, ça peut permettre aux autres de briller encore plus.
Oui, mais
Merci Laurent.
ils font en sorte de donner une autre image d'eux. Quelqu'un qui est stupide, il va pas avoir la bêtise de se laisser filmer.
Exactement. Comme quoi, il est pas si con qu'il en a l'air.
Exactement.
La peur des mots, c'est aussi l'affaire de la justice, et tout de suite, le nouveau titre d'Hervé. Des mots signés Hervé, la programmation rhétorique ce soir de Jean-Baptiste Audibert.
Quelle sera la politique de Jean Le Canuet, ministre de la Justice ?
L'indépendance rigoureuse de la justice, la protéger de toutes les pressions.
Tout doit être entrepris pour rendre à l'autorité judiciaire en France sa pleine indépendance.
Faire en sorte vraiment qu'on assure l'indépendance de la justice.
Nous sommes aux côtés des magistrats et nous tenons à préserver leur indépendance.
Le nouveau rendez-vous.
Rien n'est fait pour entraver le cours de la justice.
Laurent Goumard.
J'en ai assez de tous ces soupçons qui pèsent sur l'indépendance de la justice.
Sur France Inter.
J'en ai assez.
Mais quel casting, Jean Le Canuet, Robert Badinter, Elisabeth Guigou, Rachida Dati, Christiane Taubira et Nicole Belloubet, qui en a assez. Et tous ont ce mot sur l'indépendance de la justice. On en parle ce soir avec nos invités, quatre dans le prétoire de France Inter, les magistrats Fabienne Sirdé-Garnier et Youssef Badre, notre journaliste maison Jean-Philippe Degnaud et le documentariste Robert Salis, qui signe Rendre la justice, un documentaire exceptionnel, sorti en salle hier, Benoît Lagane.
Oui, alors Youssef Badre, on vient d'entendre tous ces porte-paroles du gouvernement parler d'indépendance. Vous avez été porte-parole de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, en 2017, avant d'intégrer l'École nationale de la magistrature. À force d'entendre les politiques dire qu'ils veulent toujours défendre l'indépendance de la justice, on finit par douter, non ?
Mais on finit par douter parce qu'elle est systématiquement remise en cause, cette indépendance, que vous avez toujours des gens, parfois par intérêt, parfois par facilité intellectuelle ou raccourci, qui viennent vous dire que la justice n'est pas indépendante. Moi, je vais vous dire, si on parle de la justice du quotidien, celle qui intéresse tous les justiciables, celle pour laquelle d'ailleurs probablement Monsieur Salis a réalisé ce documentaire-là, moi, il s'avère que j'ai jamais été au siège, j'ai toujours été au parquet, le fameux parquet qui n'est pas indépendant. En 8 ans, je n'ai jamais eu, sur des affaires pourtant parfois très graves, des affaires criminelles ou des affaires qui intéressaient le quotidien des gens, je n'ai jamais reçu une seule directive de mes procureurs différents. J'en ai eu plusieurs, je n'ai jamais eu une seule directive. Donc pour la justice au quotidien, celle qui intéresse les justiciables, ce que je peux vous garantir, c'est que on discute entre nous énormément, et heureusement qu'on discute entre nous. Combien ça vaut? Est-ce que ça vaut 8 ans? Est-ce que ça vaut 7 ans? Est-ce que ça vaut 12 ans? On en discute entre nous, on doute beaucoup, mais par contre, je n'ai jamais eu un procureur qui me dit, lui, là, j'ai reçu des consignes très claires, il faut absolument soit le clouer au pilori, soit le faire relaxer.
Ça, on a toujours l'impression que c'est plutôt pour les dossiers politiques, en fait, Fabienne Sirdé-Garnier.
Ça peut l'être, mais ça ne l'est pas uniquement. Je dirais que l'indépendance, tout dépend comment on la définit. Youssef Badre parlait de l'affaire d'Outreau. Et c'est vrai, je l'ai constaté, qu'à la suite de cette affaire, eh bien, tous, nous avions la hantise de condamner à tort, et donc peut-être de moins croire une parole que nous ne l'aurions cru avant cette affaire. Et donc, indépendance par rapport à l'opinion publique aussi. On dit toujours, les gardes des Sceaux successifs y ont pensé, indépendance par rapport au pouvoir politique qui prend son téléphone pour vous dire, il faut juger comme ça. Non, sauf à être véritablement maladroit, ça n'existe pas. Pas ou ça n'existe plus. Mais l'indépendance vis-à-vis de la pression médiatique, je repense, mais Outreau, l'affaire Grégory, enfin, etc. Donc, la presse peut aussi s'interroger sur les pressions qu'elle exerce volontairement ou involontairement sur le cours de la justice. Il fallait être sacrément courageux au moment d'Outreau pour ne pas céder à cette pression médiatique qui s'est emballée, manifestement. Donc voilà, l'indépendance, la vision caricaturale que certains peuvent en avoir, ou plutôt l'absence d'indépendance, je n'y crois pas. En revanche, résister à des pressions plus diffuses ou d'une autre source, oui, je crois qu'il faut encore le faire.
Une des questions abordées par le film, c'est comment faire pour éviter l'instrumentalisation de la justice, et c'est notamment évoqué en ce qui concerne les affaires qui mettent en cause des personnes du monde économique ou politique. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Youssef Badre ?
C'est-à-dire, est-ce que la justice est indépendante vis-à-vis des pouvoirs, vis-à-vis
du pouvoir ? C'est vraiment une des questions qui est posée à l'intérieur du film. Ouais.
Ah bah oui, moi pour moi, je pense que
quand ça met en cause des personnes,
par les différentes créations qui ont été parfois d'ailleurs critiquées au départ, mais je pense par exemple au parquet national financier qui au départ avait été très décrié lors de sa mise en place. Quand on voit aujourd'hui que la machine tourne normalement, que vous avez des responsables, des chefs d'entreprise qui voilà sont entendus comme des justiciables, enfin qui sont entendus comme des justiciables. Lambda, en fait. C'est pas parce que vous êtes PDG ou que vous êtes directeur d'une grande entreprise que vous devez échapper, en fait, à l'institution judiciaire. Moi, l'École nationale de la magistrature ne nous apprend pas ça. L'École nationale de la magistrature nous apprend à réfléchir, à être des bons juristes, à avoir des qualités humaines, même si on part évidemment avec un capital qui est le sien et on ne change pas. Et ensuite, elle nous apprend à raisonner, à douter, à réfléchir en collégialité. Mais pour moi, il n'y a pas de justice économique. Ça reviendrait à dire justice de classe, il y aurait justice
mais
de
pour autant, cette question est abordée. Vous l'abordez justement.
Je dirais que la pression, elle est presque inverse. C'est-à-dire qu'il est plus courageux pour un juge ou pour un ensemble collégial de juges de relaxer ou de condamner à une sanction qui apparaîtra modérée que de condamner. Il y a plutôt une pression à être sévère, voire à être plus sévère envers un homme politique, un mania de l'économie, etc. Justement pour ne pas paraître être le vecteur d'une justice à deux vitesses. Donc la pression, vous voyez, c'est subtil. Elle peut être aussi, je sais que personnellement, je ne citerai pas le dossier, mais pour avoir remis en liberté quelqu'un dans le cadre d'une instance collégiale contre l'avis du parquet, eh bien, il y a eu quelques critiques assez virulentes sur le fait qu'on avait remis en liberté.
Jean-Philippe Deniaux.
Mais oui, mais je crois que le problème, on se pose peut-être la mauvaise question. Le problème, c'est pas de savoir si les magistrats ou le magistrat, les uns après les autres, se sentent indépendants ou pas. Ils vous répondront tous oui. Et je pense que là, dans la plupart des cas, c'est vrai. Dans la quasi-totalité des cas, c'est vrai. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le système français, on a une image qui est différente parce qu'il y a toujours ce cordon ombilical qui relie le parquet à la française, au pouvoir exécutif. Et tant que le cordon ne sera pas coupé, il y aura une suspicion de dépendance. Et c'est ça donc qu'il faudrait parvenir à faire, c'est couper ce cordon et comme ça on ne se posera plus la question.
Mais est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est envisageable ?
Politiquement non, mais...
Fabienne Serre-Desgarnier, je vous vois dubitative.
Non, j'exprimais plutôt une interrogation qu'un doute. Est-ce que c'est possible ? Oui, dans d'autres pays, cela
c'est
existe.
Pour ça, hein. Oui.
Cela existe. J'aurais peut-être une vision un peu moins, alors je vais pas dire angélique, ça serait réducteur, mais optimiste, de l'absence totale de lien entre le parquet général, la chancellerie, etc. Il y a encore des échanges. Que ces échanges ne soient pas aussi caricaturaux qu'on a bien voulu le dire, certes, mais pour autant, il y a toujours, pour des besoins notamment de politique pénale, pour échapper à ce risque de ne pas juger de la même manière ou de ne pas poursuivre de la même manière sur tout le territoire, il y a ce lien. Donc c'est un peu un dilemme. Hein. Comment assurer une application uniforme de la loi et du système de poursuite tout en restant indépendant?
Alors, votre film s'appelle « Rendre la justice ». Moi, je me pose la question, au moment où on parle de ce procès très attendu pour 2021, autour des attentats, notamment du 13 novembre, comment, avec ce type de grand procès, justement, peut-on rendre la justice ? Parce que là, il y a tout. Il y a l'effet médiatique, il y a l'effet, le rapport aux victimes, l'émotion que cela crée. Comment on rend la justice dans ce type de procès ?
Je dirais, c'est le dossier, tout le dossier, rien que le dossier. Alors, ça paraît simple, mais ça rejoint une de mes précédentes préoccupations, à savoir, notamment pour ces procès importants qui vont intervenir à la suite des attentats, est-ce que on va trouver en soi les ressources, le courage, je dirais, dans le cas où un dossier ne tiendrait pas d'acquitter ou de relaxer. On sait forcément que cela sera mal perçu, donc ça va demander, par-delà la technique, les faits, etc., de bonnes ressources. Hein. Donc la pression populaire, la pression médiatique voudra qu'il y ait des condamnations, hein, je crois, et donc il faudra là encore s'extraire de cela et juger. Moi, c'est vraiment mon mantra, le dossier, rien que le dossier, tout le dossier.
Alors à propos du travail des magistrats dans le cadre d'événements tels que les attentats contre Charlie ou le Bataclan, je voudrais qu'on écoute François Molins, il est procureur général près de la Cour de cassation, à propos de son expérience suite aux attentats du 13 novembre.
Je me souviendrai longtemps de Charlie Hebdo, puisque je suis allé dans la salle de rédaction, et du Bataclan, puisque j'y suis allé à trois reprises cette nuit-là, et je me souviendrai toujours d'un détail qui m'avait beaucoup frappé, c'était en entrant dans les box, pas des box, mais des espaces circulaires pour les consommateurs. Une dame, le corps d'une dame avec les cheveux un peu coupés au carré, cendrée, qui reposait sur son sac à main, dans lequel se trouvait un téléphone portable qui n'arrêtait pas de sonner. Tout ça dans le silence. C'est quelque chose, je pense, que j'oublierai jamais.
Quand on est magistrat et que l'on travaille sur ce type de dossier, comment on réussit à garder le recul nécessaire ? Quel travail est mis en place pour aider les professionnels de la justice ?
Mais c'est ce qu'il dit dans le film, parce que c'est un extrait du
Robert
film
Salis,
qui est le plus poignant. Et en fait, lorsque je lui ai posé la question comment il pouvait vivre de telles atrocités, il répond tout simplement que quand il a des moments d'émotion, il se met un peu à part, il a un instant de recueillement et de solitude, et puis après, il retourne dans la vie professionnelle. Et d'ailleurs, il conseille aux jeunes magistrats de ne pas effacer leurs émotions, mais de les contourner. Et d'ailleurs, cet extrait est intéressant parce que je l'avais en tête et pendant son entretien, j'avais complètement oublié de lui faire parler du Bataclan. Et donc, On a commencé à partir et tout. Puis je lui dis, ah, monsieur le procureur, pardonnez-moi, j'ai complètement oublié de vous poser cette question. Il a été vraiment un homme d'honneur et de parole. Il dit, ah, si vous voulez, ben, tout de suite, il s'est rassié comme ça. On a mis les caméras et il a eu un moment d'émotion comme ça qu'on voit dans le film. Il est au bord des larmes et on sent que ça l'a complètement tourmenté. Et donc, ce moment exceptionnel, on voit qu'il le marque à jamais. Et c'est en quoi, et François Molins le rappelle énormément dans le film, il faut avoir de l'humanité et de l'humilité. Sinon, vous ne pouvez pas faire ce métier. C'est plus qu'un métier, c'est une fonction et c'est encore une fois un devoir.
Youssef Badr ?
En fait, on y est. Moi, je pense très clairement, on n'y est pas préparé. On y est bien formé, très très bien formé, mais après, on n'y est pas préparé. On a tous des souvenirs de scènes de crime, forcément, quand on est passé au parquet. Moi, j'ai des souvenirs en pagaille, notamment en Seine-Saint-Denis. J'ai des souvenirs d'avoir déplacé sur des scènes où le mari avait tué la mère et la compagne, ça devant les enfants. Donc là, on prend une claque. Sur le coup, en fait, le professionnalisme prend le dessus, en fait. Donc en fait, on saisit le service d'enquête, on se pose pas de questions, on se blinde. Et c'est ensuite, une fois qu'on part, que là, on se prend le baobab en pleine tête. Moi, en fait, ce qui m'a toujours permis de tenir, en fait, c'est mes collègues. C'est idiot, et c'est d'ailleurs pour ça que on dit souvent que Bobigny, c'est un peu l'école de la vie. Et en fait, on y rencontre des collègues, on en repart avec des amis. Moi, j'ai énormément discuté. La majorité des gens que j'ai rencontrés là-bas au parquet de Bobigny sont devenus des amis très très proches. Et ensuite, bah en fait, on a après notre maison mère à tous, c'est l'ENM. C'est idiot, hein, ça paraît être idiot, mais on a des sessions de formation là-bas. Le magistrat, la confrontation du magistrat à la mort, on a beaucoup de sessions de formation sur du savoir-faire et sur du savoir-être. Et en fait, l'ENM est un lieu où on se pose, on choisit nos sessions de formation et où on échange énormément et ça nous fait énormément de bien.
Fabienne Sire-Desgarnier, est-ce que parfois vous vous êtes demandé si vous ne demanderiez pas d'être dessaisi de certains dossiers ? Ça vous est arrivé ?
Ça m'est arrivé, alors non pas parce que je trouvais le dossier trop atroce ou trop affreux, mais parce que je me trouvais confrontée à ce qui nous est absolument interdit, c'est de savoir le déni de justice. J'avais deux paroles exactement équivalentes, notamment dans des matières comme des agressions sexuelles contestées, hein, c'est le cas le plus simple à expliquer, où vous avez une victime qui est convaincante, un auteur présumé qu'il est tout autant, et un dossier qui ne vous aide pas à trancher. Là oui, parfois, alors on a une règle hein, qui veut que dans le doute, on relaxe ou on acquitte, mais vous prenez donc cette décision, et combien de fois je me suis dit, qui étais-je, qui étions-nous, parce que heureusement c'est en collégial, qui étions-nous pour prendre cette décision, et si nous avions eu le choix, est-ce qu'on n'aurait pas pu dire cette affaire ? Je ne sais pas. Ça nous est interdit, c'est parfois compliqué, parce que dans les cas où on a relaxé, c'était au tribunal correctionnel, puisque nous avions un doute, nous nous sommes fait, et je le comprends parfaitement, copieusement insulté par la victime présumée, par sa famille, par les gens de la salle, etc. Et ça, oui, ce sont des affaires pénibles. Le caractère, entre guillemets, parce que c'est un terme que je n'aime pas, monstrueux de certaines affaires, il me semble qu'on sait plus faire ça. On sait plus faire, même si on a tous, enfin je crois tous, souvent en audience, renversé la tête en arrière pour que nos larmes ne coulent pas. You think you know me, but you don't even know nothing about me, yeah. You see my thick thighs, lost when you look into my brown eyes. You see my little ways can make you switch sides. You never know the devil in a disguise, so why don't you stand up, baby, yeah. Tell me, do you want me on top? So let me show you, I don't need to back it up. Don't wanna hold you, mold you, scold you, split you in half in my heart. Trusting you, honor you, please do the same on your part. Be honest. You want this. I can be heartless, regardless of my conscience. Be honest. You want this. I can be heartless, regardless of my conscience. Take time, you know, stay around whenever I.
you come my way, make sure you think twice. Look into my eyes, but I can never see eyes. I can point a gun, but you know I could never lie. Come through, I can show you something you can run to. When I'm finished, you'll be feeling brand new. Will never be somebody you can run through. And I can put that in my life one time. No cap, big five, slow that, catch feels, get high. If you make your bet, then you can lie. Just be so much my time. Be honest, you want it. But I can be heartless, regardless of my conscience. Be honest, you want it. But I can be heartless, regardless of my conscience.
People, they talk their majesty. About the way your body twisting, make me lose control in a distinct boy. And it's happy cause I'm thinking of us. Don't go throw me under the bus. Under respect, I'm under your love. I don't know why nobody want me. They say my baby today do me bad. Put your heart inside my goodie bag. If I do you bad, I beg you make you know do me bad. Give me one time, one try, be mine this time. Take time, same time, make me know they waste time. Girl, I never lied, you already know I
be honest.
C'est l'impératif catégorique de la Britannique Georgia Smith en duo avec le rappeur nigérian Burna Boy. La programmation Toute la vérité, rien que la vérité, ou rien que le dossier, hein, comme dirait Fabienne. C'est Jean-Baptiste Audibert qui signe la programmation.
Rendez-vous.
France Inter.
Il est difficile de juger des hommes et des femmes. Car c'est ça la grande question quand on devient juge. On se dit, mais comment est-ce que je vais pouvoir juger des hommes et des femmes, mes semblables? Ma réponse est très radicale sur ce plan-là. Je n'ai jamais jugé ni un homme ni une femme depuis 40 ans que je suis juge. Jamais. Je ne me reconnais ni le droit ni la compétence de juger ceux qui sont devant moi. En revanche, j'ai le pouvoir et le devoir de juger des comportements et de décider si oui ou non ils sont tolérables, acceptables, compatibles avec la vie en société.
Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
C'est André Potocki que l'on entend dans votre film Robert Salis. Il est juge français à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est une très belle formule, mais moi, elle m'a absolument inquiété. En fait, il y a une sorte de déshumanisation, c'est-à-dire, oui, je me suis interdit de juger des hommes et des femmes, et je juge des comportements. Qu'est-ce que vous en pensez, Fabienne?
Je comprends qu'elle puisse prêter à interrogation, et je crois qu'on s'est tous interrogés sur ce qu'il voulait dire précisément. Et je ne crois pas qu'il ait voulu dire que la justice était désincarnée.
Je pense pas non plus.
Parce que c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. À savoir qu'il y a l'aspect technique d'un dossier. Et puis derrière, il y a la patte humaine en face de vous. Et je vous disais, on juge pas nécessairement de la même manière sur tout le territoire. Le même fait, en fonction de la personne que vous aurez en face de vous, ne sera sans doute pas jugé de la même manière. Donc, je pense qu'il voulait dire qu'il faut garder une distance et ne pas juger au sens moral du terme. Il était là pour appliquer la loi et sans tenir compte d'autres considérations. Maintenant, faire ce distinguo un peu cérébral, je dirais, entre juger un homme et une femme et juger ce qu'il dit juger, c'est un peu compliqué à expliquer, effectivement.
Non, mais quand je lui ai posé la question...
Robert Salis, l'auteur de ce documentaire.
Ouais. Quand je lui ai posé la question, en fait, on faisait référence, comme il est à la Cour européenne, et qu'il y a à la fois la justice issue du droit romain, qui est la nôtre, et la justice anglo-saxonne. Et vous savez que c'est tout à fait différent. on se base d'abord dans la justice anglo-saxonne sur les faits et on ne fait pas d'enquête de personnalité. Et c'est en fonction de ça qu'il a répondu à ce niveau-là, parce que on peut dire aussi qu'en matière de justice, il y a une mondialisation de la justice, parce que on le voit en droit des affaires, par exemple. Le droit anglo-saxon phagocyte complètement le droit français et tous les contrats sont un peu comme le droit américain. Et c'est par rapport à ça qu'il dit ça. Il y a d'un côté les faits et après on fait l'enquête de personnalité.
Youssef Badr, rendre justice, on le sait, c'est un acte violent. Et d'ailleurs, l'incompréhension, généralement, pour le justiciable, tient au fait que, à son acte de violence illégale, la justice va répondre par un acte de violence légale. Vous aviez parlé pendant la chanson, donc personne ne vous a entendu parmi les auditeurs, mais j'aimerais qu'on revienne là-dessus. Vous parliez du moment du verdict en cour d'assises.
En fait, le moment du verdict en cour d'assises, moi, m'a toujours impressionné au sens propre du terme, mais comme je pense la majorité de mes collègues au parquet, parce que vous avez beau avoir demandé 25, 30 ans, parfois la réclusion criminelle à perpétuité. En fait, quand la peine tombe, pour vous, c'est un choc parce que vous, en fait, on n'a ni plus ni moins que le pouvoir de mettre une vie entre parenthèses. Et d'ailleurs, une vie entre les barreaux puisque la personne part pour, quelquefois, une bonne partie de sa vie. Et ce qui m'avait heurté, beaucoup heurté, c'est que, j'ai vu des jurés pleurer, en fait. Des jurés pleurer de peur et être tétanisés. Et je me suis dit que, en fait, c'est là qu'ils comprennent, en fait, c'est quoi notre métier. C'est là qu'ils comprennent qu'en fait, quand on sort de l'ENM, on a un permis de juger. Et en fait, un permis de juger sur le papier, c'est une possibilité de juger les gens. Mais sauf qu'en fait, dans la réalité, quand le verdict tombe, en fait, les gens mesurent, en fait, ce que ça veut dire que de se prendre 20 ans de réclusion ou 25 ans de réclusion. Là, les jurés comprennent.
Justement, il y a cette question qui est posée sur le fait qu'un procès pourrait être réparateur pour les victimes. Alors, il y a une personne dans le film qui dit non, pas du tout, et justement qui craint. Je crois que c'est Emmanuelle Perreux, la directrice des études à l'École nationale de la magistrature, qui dit que pour elle, ça lui fait vraiment peur qu'on pense ça justement.
Non, ça peut être réparateur pour la victime. Ouais.
Non, c'est qu'en fait la victime, elle va être indemnisée, elle va être reconnue dans son statut de victime. Mais en réalité, la victime, elle est, j'allais vous dire, elle est mise à nu également, au même titre que le prévenu ou l'accusé. La victime, et d'ailleurs c'est aussi le fondement de notre démocratie, il faut le rappeler systématiquement, mais la victime, on va lui poser des questions, on va être certain de ce qu'elle dit, on va s'assurer de ce qu'elle dit. Les avocats pourront lui poser des questions, ils sont dans leur rôle. L'accusé va pouvoir contester, l'entendre, l'accusé, le prévenu, quand vous avez été victime de tel fait, contester cette réalité qui vous a brisé. Effectivement, pour la victime c'est très dur. Non, elle est reconnue dans son statut de victime, mais le passage devant le tribunal ou la cour d'assises n'est pas une mince affaire pour la victime.
Réparation, Jean-Philippe Deniaud.
C'est même souvent extrêmement douloureux parce que c'est le dernier rendez-vous avec la justice. C'est-à-dire, entre la commission des faits qui sont douloureux et le procès, il va y avoir toute une phase d'enquête où la victime va être interrogée, évidemment, mais elle va être sollicitée, elle va être accompagnée par un avocat jusqu'à son procès. Et d'un seul coup, du jour au lendemain, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien, se passe plus rien. Elle se retrouve seule avec son drame ou avec le drame qui la touche.
Et elles sont très différentes, les victimes, en fait, les unes des autres. Moi, j'ai le souvenir d'un procès d'une, ce qu'on appelle communément une tournante, hein. une victime dans le 93 qui avait été violée par plus d'une dizaine d'individus, un truc vraiment horrible. Calvaire avait duré 2 heures et les assises avaient été très dures pour elle, très très dures, parce que les accusés contestaient les faits et que les avocats de la défense étaient assez pugnaces. Et l'expert était venu dire qu'il y avait un vrai risque d'attentat à sa vie, de suicide de la part de la victime. Et le procès s'est terminé, ils sont condamnés. Et j'ai reçu une lettre hyper émouvante des mois plus tard de cette victime qui m'avait dit qu'en fait ça l'avait énormément aidé. Là où le président de la cour d'assises et moi étaient convaincus que ça l'avait probablement plus atteint et plus détruit qu'autre chose. Et en fait, elle nous expliquait qu'elle était repartie.
Oui. Et puis la victime, elle peut pas faire appel de la condamnation, donc elle peut toujours faire appel des indemnités éventuellement. Mais ça, ce qui choque beaucoup de gens, c'est que si vous êtes pas satisfait de la condamnation qui est prononcée, la victime ne peut pas faire appel. Donc ça crée vraiment un gros malentendu.
Alors, pour l'impact de l'exercice de la justice sur les magistrats, c'est au cœur de votre film. Encore un extrait que j'aimerais qu'on écoute de votre film. C'est le témoignage de Jean-Paul Besson, donc premier vice-président au TGI de Paris, qui a longtemps exercé dans la région de Châteauroux, et voilà ce qu'il vous raconte dans votre film.
J'ai le souvenir, quittant mon premier poste au parquet de Châteauroux, petit pot de départ avec les collègues et les professionnels du droit, et un psychologue qui vient me voir. Vous savez, M. Besson, je suis ravi que vous quittiez Châteauroux. Alors, évidemment, avec une telle formule, je suis un peu interloqué. Il me dit, j'ai bien travaillé avec vous et j'en suis ravi. Mais je suis content que vous partiez, parce que vous savez, actuellement, à la maison d'arrêt, je soigne un détenu qui pense que vous êtes à l'origine de tous ces maux. C'est vous qui l'avez fait placer en garde à vue lorsqu'il était accusé d'attouchement sur sa fille. C'est vous qui avez prolongé sa garde à vue. C'est à vous qu'il a été présenté à l'issue de la garde à vue. À l'issue des 2 ans d'instruction, c'est vous qui avez requis aux assises contre lui 15 ou 18 ans de réclusion criminelle. Et donc, depuis lors, il ne rêve que d'une chose, lorsqu'il va sortir de la maison d'arrêt, c'est faire cesser celui qui est à l'origine de ces maux. Donc, il ne rêve que de vous tuer. Donc voilà, c'est pourquoi c'est une boutade, qui est pas si drôle que ça d'ailleurs. Enfin, Dieu merci, je suis toujours en vie. Mais pour montrer que sur la responsabilité du magistrat, la personnalisation est pas toujours une bonne chose.
Vous êtes d'accord avec cette analyse, Fabienne Serdet-Garnier ?
Alors, je n'ai pas connu la situation que décrit mon collègue, et je dirais que on s'en doute que certains prévenus, condamnés font des fixations sur vous, mais les critiques les plus virulentes que j'ai pu avoir à mon encontre, et le sentiment de danger, ce serait peut-être un petit peu fort, enfin, ça peut paraître paradoxal, mais c'est quand j'ai été présidente de la Chambre de la Presse, et où, en fonction des condamnations ou des relaxes que je prononçais, je me voyais traîner dans la boue. On appelait même à connaître mon adresse, à donner des primes à celui qui me retrouverait. Le débat est tellement crispé sur les questions identitaires, sur les questions de racisme, d'antisémitisme, d'islamophobie, etc., que c'est là où ce déchaînement de haine et cette vindicte personnelle, c'est un peu moins vrai maintenant parce que j'exerce des fonctions beaucoup moins exposées, mais avant, pardon pour la publicité pour le moteur de recherche, quand vous me googliez, eh bien, mes filles étaient totalement effrayées par les horreurs qui pouvaient sévir sur moi.
Youssef Badr, vous connaissez aussi des affaires équivalentes ?
Des affaires équivalentes, des exemples, oui, bien sûr, des délibérés ou incontestablement, s'il n'y avait pas le box, les gendarmes et les policiers, bah, c'est sûr qu'il y avait un risque d'atteinte physique, évident. Des insultes, alors moi j'ai souvent eu le droit aux mots de traître, par des gens qui probablement pensaient, je sais pas, chercher une forme soit de complicité, soit de compréhension, ce qui moi m'a souvent d'ailleurs beaucoup déstabilisé, parce que ça se pose même, on se pose après pas mal de questions, en se disant est-ce que sans m'en rendre compte je suis plus dur avec certaines personnes ou pas, mais oui, c'est sûr, je suis pas le seul, j'ai vu des collègues se faire gifler, j'ai vu des bureaux, des collègues à l'instruction voir leur bureau être retourné par des personnes mises en examen, bien sûr que c'est impressionnant, et surtout on est ce qui est déstabilisant, c'est de se dire que le soir je sais pas ce qu'en pense Fabienne, mais c'est de se dire en fait le soir quand on quitte le tribunal, en fait on est tout seul. En fait.
Alors on est assez blindé, hein. Si vous voulez que je vous raconte une anecdote, moi qui me fait toujours rire, c'est je condamne quelqu'un à une peine assez lourde et dans le box, pardonnez-moi pour l'expression, il me dit « vieille pute ». Bon, j'encaisse, et puis je sors, je débriefe avec ma greffière, et elle me dit « mais pourquoi vieille ?»
Voilà. J'aimerais avoir le nom de cette greffière. J'espère que vous êtes resté, que vous l'avez viré, Manu Militari. Comment d'ailleurs vous êtes arrivé à la magistrature ?
Alors moi j'ai un parcours, mais ce serait trop long, hein, un peu atypique, puisque j'étais programmée pour être professeur d'histoire, puis j'ai voulu devenir commissaire-priseur, et finalement le droit, je suis tombée, j'allais dire, en amour, comme disaient les Canadiens, avec cette matière, et c'est véritablement le plus beau pour moi métier du monde, et je dis toujours à mes filles, si vous avez la chance de faire un métier qui vous passionne du début à la fin, où vous allez malgré la fatigue, malgré l'angoisse, etc., toujours content d'aller au travail, eh bien vous aurez réussi votre vie.
Et vous, Youssef Badr, au départ, vous vouliez être avocat.
Moi, je voulais être avocat.
Vous avez complètement basculé.
Ouais, moi, je voulais être avocat parce que je trouvais qu'il y avait rien de plus beau que de défendre les autres et ceux qui sont victimes d'injustice. Et en fait, j'ai rencontré un individu absolument exceptionnel et qui est dans ce film. Donc, j'en profite, qui s'appelle André Potocki.
Et qui m'a,
exactement,
ouais.
Et qui m'a beaucoup aidé, beaucoup conseillé, beaucoup rassuré et qui m'a convaincu que, moi, le fils d'immigré marocain, je pouvais intégrer la magistrature et il m'a beaucoup poussé, énormément, je lui dois beaucoup, et c'est comme ça qu'il m'a convaincu que avocat c'est beau, mais si vous voulez changer les choses ou le cours d'une vie, c'est magistrat, et c'est pour ça que je suis devenu magistrat.
Ah ben, ce sera le mot de la fin, sur une belle expérience de vie, j'adore ça. Merci à vous quatre, vous restez encore avec nous, on va parler musique, on va plaider la cause de la musique avec Marion Guilbault.
Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Ah, Marion.
Oui, Laurent. C'est quelque chose notre à ajouter pour votre
musicale.
Défense.
Ah, j'en étais sûr.
Voilà. Alors, le groupe s'appelle Film Noir. Alors, je vous donne le pitch. Hein. C'est l'histoire d'une sœur et d'un frère, Joséphine Alexandre de la Baume. Elle est actrice, mannequin, lui, musicien. Tous les deux sont d'incurables romantiques. Ils ne rêvent que de faire de la musique, de vivre vite et d'aimer fort. Alors, dans la première partie du film, on les voit s'organiser, répéter et créer leur premier projet. C'est mélodique, c'est efficace, ça s'appelait Think Tank. Et ça sonnait comme ça. The Party, cet extrait de leur album In Wonder, ça c'était en 2012. Mais dans la deuxième partie du film, Joséphine et Alexandre décident finalement de tout reprendre à zéro, ou presque. On garde les guitares qui saturent, les réverbes qui chauffent, bref, tout ce qui vibrait, mais on étoffe le casting avec trois musiciens et on devient un vrai groupe avec un nom qui fait frémir, Film Noir. Alors Film Noir s'inscrit dans le sillage de la femme d'Eli Mignanas. Ils se sont écrits un scénario musical à leur mesure. Comment donner un sens au désespoir, au chagrin amoureux? Eh bien, en jouant un garage rock nerveux, glamour, ténébreux, aussi brûlant que le titre qu'ils vont projeter ce soir dans le NRV. Film Noir, c'est à vous.
Down. Merci beaucoup.
Merci à vous. Brûlant, cet extrait de leur excellent premier EP, Vertige, Film Noir. Le EP sort demain. Film Noir, c'est Joséphine, Alexandre, Martin, Victor et Mathieu. Ils seront en concert à la Maroquinerie en première partie des Black Lips le 21 novembre. Mais comme c'est complet, eh bien rendez-vous à la Boule Noire le 22. Et la prise de son ce soir était assurée par Mathias Saléon et Nicolas Cazot. Merci beaucoup d'être passé par le Nouveau Rendez-vous.
Et merci à nos invités. Merci Robert Salis. Rendre la justice, c'est un film qui est en salle depuis hier et c'est un événement. Merci Fabienne Sirdé-Garnier et Youssef Badr. Vous y êtes tous les deux formidables. Merci à vous deux. Et enfin, merci, bien sûr, Jean-Philippe Denis.
Allez voir le film, évidemment. Et juste après, vous allez dans les tribunaux et vous allez voir comment on rend la justice.
Pour voir la fiction d'un côté,
la réalité. Non,
de réalité. Avant, après. C'était le NRV première partie. On se retrouve dans 15 minutes pour le NRV la suite, pour plus de France Inter. Lundi, on a rendez-vous et on se retrouve avec ça. Pauvreté, mal-être, précarité, les étudiants se mobilisent. On vous attend sur le sujet. Vous pouvez laisser des messages, des questions, des analyses sur notre répondeur 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37. En live, Marion, lundi.
On reçoit un Américain, il s'appelle Ezra Furman.
Le NRV, c'est Marion Lelay à la réalisation, programmation, préparation. Ils sont trois. Virginie Rosic, Clémence Diligent et mon Benoît Lagan.
Rendez-vous.